Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour vous présenter l'émission Ouvrons le débat. Nous abordons maintenant la troisième partie de notre réflexion de ce mois autour du thème de Marie et du culte marial. Lors des deux premières émissions, nous avons entendu les points de vue de l'Église protestante et du Père Wilhelm sur la simplicité de Marie et sur le modèle de vie qu'elle nous présente, celui du service humble et discret, comme on peut le voir dans les évangiles. Nous avons aussi découvert à quel point l'islam vénère Marie et lui consacre même toute une sourate dans le Coran. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la grande tradition chrétienne, aux documents doctrinaux que le magistère de l'Église a élaborés à propos de Marie au fil des siècles. Et pour nous parler de cet enseignement traditionnel et dogmatique, nous accueillons à présent le Père Jacques Potier. Bonjour Père, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement à la paroisse Notre-Dame à Chartres, chapelain donc à la cathédrale, après avoir, je crois, été longtemps curé dans différentes paroisses du diocèse. Nous vous avons invité parce que vous avez fait des études de théologie dogmatique à Rome, à la Grégorienne, et donc vous êtes bien placé pour nous parler de tous ces textes de l'Église et de la foi chrétienne. Je voudrais commencer d'ailleurs cette émission en vous questionnant à propos de la première chose qui nous vient à l'esprit, la foi en la virginité de Marie. Parce qu'une enquête a montré il y a quelques années que si chez les orthodoxes 80% des pratiquants croyaient à la virginité de Marie, on descend à moins de 70% chez les catholiques et à peine 50% chez les protestants. Et peut-être d'ailleurs qu'avec les années, on a encore baissé. Et de même, chez les théologiens, on entend de plus en plus défendre l'idée qu'il s'agit là seulement d'un langage symbolique et non pas d'une réalité historique. Donc ma question serait, pouvez-vous nous dire si la foi en la virginité de Marie a une réelle importance ou s'il s'agit là d'un détail secondaire de l'histoire? Qu'en pensez-vous?
C'est une bonne question. C'est vrai que je suis un peu étonné de voir que pas mal de catholiques seraient hésitants sur la virginité de Marie. Bon, mettons de côté toute la réflexion des théologiens ou de gens qui ont des opinions personnelles. Moi, je voudrais parler simplement en me mettant au niveau du peuple de Dieu. Moi, je suis un simple chrétien. J'espère avoir la foi chrétienne, catholique. Et je sais que dans mon credo, c'est-à-dire le credo baptismal qui a commencé dans les premiers siècles, on dit tout simplement, eh bien, qui est Jésus est né de la Vierge Marie. Conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Ça a été dit, ça a été transmis. Alors, ensuite, les réflexions des uns, des autres, ça a une importance. Mais la foi du peuple de Dieu, indépendamment des textes du magistère qui vont venir après, mais la foi qui a été exprimée dans le credo, qui s'enracine dans l'Écriture, qui s'enracine dans l'Évangile, parce que la virginité de Marie, on peut quand même la pressentir du fait que Marie s'est consacrée à Dieu toute petite. Ce qui me semble, il me semble, qu'on peut affirmer que la virginité de Marie, d'abord, c'est le sens de sa consécration totale à Dieu, corps et âme, et même à l'Annonciation. Non seulement l'ange lui dit « tu es pleine de grâce », mais lorsqu'on lui fait la proposition que l'enfant qui viendra d'en haut sera en toi, la question qu'elle pose c'est « comment cela se fera-t-il ? Parce que je ne connais point d'homme ». Ce qui veut dire que toute petite, elle a dû se consacrer à Dieu, et donc dans la virginité de sa foi, de sa contemplation, tout son être a passé à l'accueil de l'Esprit-Saint. C'est ça la virginité. Et donc dans le credo, on l'a affirmé, et puis dans le « Je confesse à Dieu », bon, c'est revenu plus dans le rite extraordinaire maintenant, mais toujours Vierge Marie, combien de prêtres ont pu le dire dans le « Je confesse à Dieu ». Donc cette réalité de Marie, toujours Vierge, et dans l'Église orthodoxe, c'est quand même très net, puisqu'on voit dans les icônes les trois étoiles qui signifient que la Vierge Marie était Vierge avant, pendant et après l'enfantement. Voilà, c'est ce qui me vient en premier lieu, comme ça, dans un premier jet, mais il y aurait tellement de choses à dire. Ça fait partie de la foi. Alors, il y a des hiérarchies dans les vérités de la foi. Mais c'est essentiel aussi, c'est très important, parce que ça signifie sa consécration totalement donnée à Dieu.
Je pensais quand même aussi que Benoît XVI faisait remarquer dans son livre sur la fille de Sion que si on ne comprenait pas la virginité de Marie, on ne comprenait pas non plus l'incarnation du Verbe, on ne saisissait pas de la profondeur de la divinité du Christ.
Oui, je crois qu'on peut dire que, de fait, Marie ne faisant qu'un avec l'Esprit-Saint et l'amour du Père, dans sa contemplation, elle a reçu le secret du Père, la vie du Père. Alors, la vie du Père, c'est son Fils, c'est son Verbe. Et donc, saint Augustin dit que la Vierge Marie a accueilli dans son esprit, dans sa foi et dans son cœur le Verbe de Dieu, avant de le concevoir dans sa chair. Ce qui veut dire qu'elle a reçu tout de Dieu, et le Fils qu'elle reçoit, c'est le Fils du Père. Et donc, cela signifie qu'au niveau christologique, ça signifie une assertion profonde, Jésus est le Fils du Père. Donc, elle accueille le Fils du Père. Et donc, de fait, Benoît XVI a bien souligné le lien qu'il y a entre ce fait qu'elle est consacrée totalement à l'amour de Dieu, à l'amour du Père, pour recevoir la génération éternelle du Verbe, que le Père engendre éternellement, elle reçoit dans son cœur, et celui qui s'unit à sa nature, par la nature humaine en son cœur, c'est le Verbe de Dieu, et donc Jésus est vraiment Dieu. Donc c'est aussi une façon d'aborder la notion de Marie Vierge, mais aussi Mère de Dieu. Mère de Dieu, qui est aussi une expression difficile à saisir, mais qui donne encore d'une façon plus précise que Jésus est de même nature que le Père.
Vraiment Dieu, oui. Mais ça n'a pas été visible directement, puisqu'il a fallu quelques conciles historiquement pour arriver à formuler toutes ces choses.
Oui, certains théologiens ont dit « Ben non, c'est pas possible, elle est mère du Christ. » On ne peut pas affirmer qu'elle est mère de Dieu, parce que Dieu n'a pas de mère. Alors, la réponse a été le concile d'Éphèse en 431, qui, de fait, a affirmé que la Théotokos, ce titre de mère de Dieu, était une réalité qu'on devait enseigner et porter dans la prière. D'ailleurs, même ceux qui disent qu'il n'y a pas tellement de lien avec l'Évangile, on pourrait dire quand même qu'à la Visitation, Élisabeth, en accueillant Marie, dit « Tu es bénie entre toutes les femmes, comment se fait-il ?» que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. C'est presque le titre de mère de Dieu.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, en fait, bon, il y aura une réflexion un peu philosophique à faire sur le sens de la maternité, parce qu'il me semble que quand on met un enfant au monde, une mère, elle ne met pas un enfant au monde, un bout de chair, excusez-moi l'expression, qui deviendrait un homme. Elle met au monde une personne. Donc la maternité a pour aboutissement la naissance d'une personne. Or, Marie n'a pas donné naissance à un être humain qui deviendrait Dieu. Et donc c'est pour ça que l'Église a maintenu très fermement le fait qu'elle pouvait être appelée mère de Dieu parce que Jésus est Dieu, et elle n'est pas devenue mère d'un homme qui serait devenu Dieu. Voilà, c'est ça. C'est aussi une explicitation christologique très forte que de maintenir le terme de mère de Dieu.
Oui. Et pourtant, on distingue deux natures dans le Christ,
oui.
Ce qui a fait que certaines hérésies disaient « elle est mère de la nature humaine du Christ ».
C'est ça.
Et seulement ça. Et je crois qu'il y a d'autres hérésies qui disent le contraire. Jésus n'est que Dieu et n'a rien à voir avec la nature humaine.
C'est ça. Alors le concile de Chalcédoine, donc c'est en 481, ce concile a voulu montrer que si on avait découvert les deux natures, puisque évidemment, après Arius, le premier concile, c'était en 325 avec Nicée, a fallu défendre la divinité, la nature divine. de Jésus. Ça a été la première chose à affirmer. Ensuite, eh bien, on a tellement accentué l'aspect de la nature divine que la nature humaine était laissée de côté. Si bien qu'il y a eu le monophysisme, un dénommé Eutychès, qui a tellement souligné cela que, évidemment, le concile de Chalcédoine a souligné que non seulement il y avait les deux natures, mais c'était l'union entre les deux natures qui était très importante à souligner, parce que c'est le Verbe qui est l'unité de la nature humaine et la nature divine, qui sont non pas séparés, mais qui ne sont pas non plus mélangés. C'est-à-dire que le Christ a vraiment une volonté humaine, une intelligence humaine, et puis l'intelligence divine, une volonté divine. Mais ce n'est pas une séparation, c'est une unité. L'unité se fait dans la personne du Verbe. Voilà.
Et Marie est mère de cette personne.
Voilà, qui s'est fait chair. Voilà, elle est mère de ce Verbe qui s'est fait chair. Voilà.
Mais pourquoi a-t-on insisté sur ce que vous avez dit pour l'Église orthodoxe, la virginité perpétuelle? Pourquoi est-elle restée vierge après? Parce que il y a toujours des théories qui disent qu'il y a des frères à Jésus et que ce sont d'autres enfants de Marie. Mmh. Et puis il y a ceux qui disent non, c'est pas possible, elle a pas pu enfanter. Pourquoi n'a-t-elle pas pu enfanter d'autres enfants?
Je pense qu'à la croix, vous voyez, Jésus aurait certainement laissé sa mère à ses frères, hein, s'il avait eu d'autres.
Ah oui.
Alors c'est quand même étonnant qu'il ait dit à Marie, voici ton fils, à Saint Jean. Donc Saint Jean est celui qui va recevoir Marie. Et puis quand on parle des frères de Jésus, bon c'est classique, hein, on sait très bien, même dans l'Ancien
famille
Testament,
élargie.
Famille élargie, les cousins, etc. Et même certains qui disent, bon, dans l'Évangile, on dit qu'elle a mis au monde son premier-né, donc il supposerait qu'il y en ait d'autres. Donc c'est sûr que c'est le premier-né de toute créature, le premier-né dans la résurrection, à la tête de l'Église, c'est parce que c'est nous qui sommes
nous
les
qui
frères
sommes les
de
suivants.
Jésus, et donc elle va élargir cette maternité qu'elle reçoit de la croix par ce terme si beau de femme qui la met dans le statut de la nouvelle Ève, une femme qui va être la mère des vivants. Donc du nouveau peuple de Dieu et donc de toute l'Église. Donc c'est vrai, elle a eu que Jésus, c'est évident. On voit sa virginité, je dirais, coule de source par le fait qu'elle est consacrée totalement à Dieu et à l'Église qui vient de naître. Donc elle est avec Saint Jean, d'après l'Évangile, elle est avec Saint Jean, elle n'est pas avec d'autres frères de Jésus. Donc c'est le bon sens là, et puis les arguments de convergence qui nous montrent que Marie a été totalement donnée à Jésus et à l'Église après.
Oui, c'est finalement la laisser sur un plan trop humain que de lui attribuer une filiation, enfin des enfants humains. En fait, elle avait déjà une consécration beaucoup plus grande et un partage de la vie du Verbe sur terre.
La maternité de grâce et d'éducation de la première Église devait l'apprendre beaucoup par sa vie de prière. On la voit à la Pentecôte, elle faisait partie donc au Cénacle du groupe qui a prié. Et donc je pense qu'elle avait autre chose à faire, j'allais dire, que de s'occuper que deux ou trois autres garçons ou filles. Et elle avait une véritable maternité et une éducation de l'Église et une prière contemplative, comme d'ailleurs justement la vocation des saintes femmes d'aujourd'hui qui se consacrent, qui unissent leur consécration et leur cœur pour l'élargir pour une maternité spirituelle. Et c'est un plein temps. De même, quand la paternité spirituelle qu'on essaye, nous prêtres, de mener très pauvrement, en lien avec toute l'Église, ça nous prend complètement. L'accueil, aller vers les autres, et voilà.
Il faut reconnaître que ce sont des idées qui ont du mal à passer actuellement. Même pour les prêtres, on pousse plutôt vers le fait d'essayer de les marier et de les laisser faire des enfants.
Ah oui, voilà, là c'est un autre sujet.
Je dis, mais je veux dire que pour Marie, on se sentirait plus proche d'une femme comme les autres.
Je crois qu'elle était comme les autres dans la vie courante, habituelle. Hein. une femme qui a travaillé, qui est à Nazareth, justement, dans la simplicité de la vie, dans le travail de la vie apostolique, quand elle a suivi les apôtres, y compris matériellement, que de travail manuel, il fallait accomplir. Et puis, en même temps, Marie, qui avait été éduquée au temple, elle avait le temps de... Elle cherchait certainement à avoir le temps de méditer les psaumes, de prier, et donc ça prend du temps. Et je pense que tout en étant totalement à Dieu, elle était vraiment proche et pleinement femme. D'ailleurs, Jésus l'appelle femme, je pense à cause de sa maternité, deux fois à Cana, où on voit qu'elle est celle qui quand même comprend la misère de son peuple. Et puis à la croix, femme, elle est celle qui collabore à l'œuvre de Jésus, à sa vie apostolique et à ses souffrances aussi. Oui.
Mais tout en étant une femme comme les autres, alors pourquoi a-t-on voulu faire, je ne sais pas si on fait un dogme, si on construit, on découvre un dogme, le dogme de l'Immaculée Conception qui lui donne finalement un statut au-delà de la féminité normale?
Oui, alors, donc c'est toute la réalité de la grâce qui s'est insérée dans notre humanité. Marie, tout en étant de notre race totalement comme nous, elle avait cette réalité qu'elle a accueilli pleinement la grâce de Dieu. Donc nous, nous la recevons au baptême, on ne collabore pas toujours. Nous recevons la grâce de la rédemption après le sacrifice du Christ. Elle l'a reçue, la grâce du Christ, elle l'a reçue d'une façon antécédente. Remarquez que la grâce du Christ, je pense qu'elle commence déjà à Abraham. C'est une grâce antécédente. La grâce de Jésus, déjà, traverse tout l'Ancien Testament, et Marie, étant fille de Sion, a accueilli pleinement, et de fait, depuis le début de sa vie, sa conception, c'est-à-dire que au moment où elle a commencé d'exister, elle a été sous l'influence de la grâce. Mais elle aurait pu très bien ne pas correspondre à cette réalité de la grâce. Ce qu'il a fait pour nous une femme vraiment qui est un modèle, c'est que sa liberté a accueilli pleinement la grâce de Dieu. Et dans ce sens-là, elle est comme nous, elle a collaboré. Et ce qui fait quand même la patte humaine, c'est aussi les souffrances de l'existence, l'exil, le travail quotidien, et puis on imagine... très difficilement d'ailleurs, hein, comment elle a pu collaborer d'une façon réaliste aux souffrances du Seigneur jusqu'à la croix. J'ai encore dans mon esprit cette phrase si belle du Concile, c'est au numéro 58, ma mémoire est bonne, au chapitre 8, ce très beau chapitre sur la Vierge Marie, où il est dit que Marie a suivi son fils et elle a donné... son consentement total à la victime qui s'offre, hein, en souffrant. Et donc l'expression est très belle, hein. Elle a donné le consentement de son cœur à l'immolation de la victime. Donc consentement de son cœur jusqu'à la croix, ça c'est vraiment une réalité humaine qu'elle a traversée. Alors c'est une grâce de correspondance, mais... Elle l'a reçue de fait toute petite, et donc dès sa conception, elle a été sous l'influence de la grâce de l'Esprit-Saint, et l'Église l'a toujours pensée. Donc vous me posez la question, pourquoi un dogme ? Bah, le dogme, c'est important le dogme, il ne faut pas se moquer des dogmes, parce que le mot, tout de suite, on imagine que c'est des réalités qui tombent d'en haut, auxquelles on doit obéir. Non, le dogme, c'est la manifestation à une époque de l'histoire de l'Église, dans la culture de l'époque, d'une réalité qui a été toujours pensée, priée, vécue par le peuple de Dieu, mais avec des fluctuations, c'est-à-dire certains se posant des questions, peut-être un certain doute. Donc à un moment, l'Église tranche, mais... Quand il y a eu ce dogme qui a été donc défini en 1854, repris à Lourdes d'ailleurs, je suis l'Immaculée Conception, en 1858, Pie IX a demandé à l'ensemble des évêques du monde entier ce qu'ils en pensaient. Or, je crois que sur le nombre important d'évêques, il n'y a qu'une cinquantaine qui avaient dit « c'est peut-être pas utile pour l'instant » et qui avaient mis quelques hésitations. Donc la grande majorité manifestait donc l'expression du peuple de Dieu comme une réalité qui avait été portée surtout par les franciscains, d'ailleurs Dun Scott, mais bien avant, enfin l'hymne acatiste, tout ça, non seulement la virginité, mais le fait qu'elle soit sans tache, ça avait été toujours prié. Donc c'est une réalité qui est sans racine, et donc dans la grande tradition de l'Église, et dans l'Écriture, pleine de grâce, je pense que c'est aussi une expression qui le signifie. « Ke karitomene », ça me revient maintenant, c'est un terme grec qui signifie la plénitude de la grâce de Notre-Dame. Et donc on voit bien que l'ensemble des dogmes qui ont été exprimés à une époque sont l'expression de toute une tradition, c'est-à-dire portée par le cœur des saints, par l'ensemble du peuple de Dieu, et par la liturgie et par les hymnes. Donc ça c'est la foi. La foi du peuple. On ne regarde pas ce que tel groupe a pu dire, ce que tel théologien a pu dire, ce que telle école a pu dire, mais ce que l'ensemble du peuple de Dieu, uni à l'ensemble des évêques et du pape et des théologiens, ça c'est une vérité de foi qui nous éclaire, qui nous stabilise et qui nous permet d'ailleurs de dialoguer au niveau œcuménique avec les autres qui ont d'autres positions.
Et ce n'est d'ailleurs pas le dernier dogme, puisque l'Église a encore conçu un dogme tardif, auquel justement certaines personnes ne croient pas parce qu'il est tardif.
Oui, c'est-à-dire, comme tous les dogmes, hein, c'est une réalité qui a toujours été crue, mais qui a été exprimée plus tard. Ça permet justement une affirmation de la foi qui... enlève tous les doutes, les discussions qui pouvaient revenir au cours des siècles. Mais cette réalité que Marie a participé en tout à son fils, à sa mort et à sa résurrection, c'était quelque chose qui allait de soi dans une logique spirituelle. Donc, ayant vécu depuis sa conception, dans sa virginité de consécration, ayant vécu totalement sous le souffle de l'Esprit Saint, il n'y avait aucun résidu de son être, son corps a participé à la gloire de son Fils. D'une façon anticipée, parce que nous aussi, nous ressusciterons et nous aurons notre assomption différente, évidemment, mais c'est le fait que la victoire du Christ sur la mort a été accueillie par elle. Vous voyez, totalement, ça c'est beau. Hein.
Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas morte ou est-ce que...
Alors, en fait, l'Église ne s'est pas prononcée sur le fait qu'elle soit morte ou pas. L'ensemble des théologiens, mais ce n'est pas dans la définition, l'ensemble des théologiens, je pense y compris Jean-Paul II, on dit qu'elle était morte comme son fils. Hein. Mais le dogme de l'Immaculée Conception signifie que son corps et son âme est monté au ciel. Son corps glorieux, hein, glorieusement assumé par l'Esprit Saint. Et la dormition signifie aussi un moment où elle s'est endormie. Et est-ce que c'est au cours d'une extase, comme on voit certains saints, Thérèse d'Avila, enfin, dans un dernier acte d'amour, ils sont comme soulevés. Eh bien, Marie, elle a été soulevée, ou elle se serait endormie dans cette extase d'amour, et puis que. Mais rien n'est resté. Peut-être son voile.
J'espère, parce qu'on le vénère.
Mais il ne peut pas y avoir de relique de Notre-Dame. Voilà. De relique de son corps.
Voilà. Oui. Est-ce qu'on n'a pas découvert de temps en temps des tombeaux par-ci, par-là? Non. L'archéologie...
L'idée de savoir si son tombeau serait à Éphèse ou à Jérusalem. Bon, il y a deux écoles. On peut réconcilier les deux en disant que, de toute façon, elle a été à Éphèse avec Saint-Jean, mais qu'elle est certainement retournée à Jérusalem. qu'elle allait probablement à faire le chemin de croix et que peut-être qu'il y a eu cette extase, cette mort d'amour, comme certains saints l'ont vécu, mais qu'elle serait peut-être pas morte finalement. Et donc à Jérusalem, il y a peut-être eu un moment d'extase où elle se serait un peu endormie, qu'on a cru qu'on était morte et qu'il y a une tradition, et que après que finalement elle a été de nouveau à Éphèse et puis qu'elle serait véritablement morte à Éphèse. Il semble que ça soit plutôt Éphèse parce que d'après Catherine Emmerich, mais là c'est une autre discussion, quoiqu'elle est bien heureuse. Et puis Jean-Paul II, Benoît XVI sont allés à Éphèse. Bon, il y a des arguments aussi un peu archéologiques qui confirment que ce qu'avait découvert Catherine Emmerich signifierait que Éphèse serait certainement aussi le lieu de son assomption, oui. Mais ce qui est beau, c'est le fait lui-même, c'est cette réalité. Marie, elle est montée avec son corps et son âme, tout en restant pleinement parmi nous. D'ailleurs, à l'Assomption, on lisait la visitation. Donc, elle visite encore, elle est proche. C'est ça qui est important. C'est que sa montée au ciel ne la rend pas éloignée. C'est pour être plus présent. Elle participe à l'omniprésence de Dieu, elle participe à l'omniscience et surtout présence de son Fils par la grâce dans nos cœurs. Et donc, elle est présente et influente, elle intercède, elle est mère, et donc elle est proche de nous.
Et est-ce qu'on peut estimer que la critique qui est faite parfois de la mariolâtrie, de divinisation de la Vierge est un danger de confondre Marie avec une déesse qui serait...
Oui, non, mais tout peut être un danger, hein, tout peut être un danger, mais je crois que le danger, ça serait justement de minimiser le rôle de Marie. Saint Bernard disait qu'on n'en parlera jamais assez parce que finalement elle met en valeur, elle nous tourne vers le Christ, elle est l'aurore qui annonce le soleil, elle est le chemin qui nous conduit au but, et elle est comme mère toujours présente. Grignon de Montfort, qui aimait beaucoup donc Jean-Paul II, eh bien, disait qu'elle était le milieu divin, hein, le milieu divin qui porte le Christ. D'ailleurs, chaque « Je vous salue Marie », c'est ça. Pour moi, un « Je vous salue Marie », c'est christologique. Hein. Pleine de grâce, la grâce du Christ. Le Seigneur est avec vous, on parle du Seigneur. Et Jésus est mère de Dieu. Donc c'est un vitrail qui nous montre sans cesse la lumière du Christ, Marie. Ah oui, vous me montrez là une prière que de fait j'avais apportée et que je vous disais que j'avais avec moi là, le document que j'ai apporté pour cette petite émission. C'est de Fulbert. On peut peut-être la dire si
on
vous voulez.
On a juste le temps avant de terminer l'émission.
Ça serait bien. Sainte et Immaculée Marie, toujours Vierge, intercédez et priez pour moi, afin que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux me délivre de l'esprit d'orgueil et de superbe, et me remplisse de l'esprit d'humilité, afin qu'en aucune de mes actions, je ne recherche la faveur humaine ou ne sois désireux de la vaine gloire, et que mon ambition soit de me faire regarder avantageusement, non par les hommes au grand jour, mais par Dieu dans le secret. Saint Fulbert, c'est beau.
Eh bien, merci beaucoup, Père.
Merci de m'avoir invité. Merci.
Eh bien, chers auditeurs, à une prochaine émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
Au revoir.
perciò negherà nel mio destino, rimarrò teco in compagnia.